Alors, ben, en effet, on va parler d'argent ce matin. Il se trouve qu'il y a quelques mois de ça, le pasteur Marie-Hélène m'avait demandé de préparer quelque chose dans le cadre du groupe famille pour, sur les finances, mais destiné aux enfants. Donc, comment parler des finances aux enfants? Comment expliquer l'argent aux enfants? Donc, j'avais été assez surprise, mais elle m'avait en même temps fourni quelques matériels. Donc, j'ai étudié, que j'ai complété. Et donc, ces deux sessions du groupe famille auront lieu quelque part dans l'automne, très prochainement, puisqu'elles sont prêtes. Mais du coup, elles ont ouvert une réflexion en moi sur l'argent, l'enfance, mon enfance, quel a été mon rapport avec l'argent dans mon enfance. Et donc, du coup, je me suis mis à réfléchir sur le sujet et je vais vous livrer ici quelques-unes de mes réflexions qui seront peut-être des pistes pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez vous poser des questions. Donc, qu'est-ce que la réussite financière? Donc, d'une manière générale, on va prendre de la hauteur sur le sujet. Donc, en général, la réussite financière, quand on demande à un premier quidam quel est pour toi les deux ingrédients d'une réussite financière, on entend souvent dire que c'est 80% de savoir-faire et 20% d'aptitude, de connaissance, de façon de penser. Je résumerais ça d'éducation. Donc, l'éducation, la réussite financière, ce serait 80% de savoir-faire et 20% d'éducation. Eh bien, justement, ce matin, je voudrais vous démontrer que ça n'a rien à voir. C'est même tout l'inverse. La vraie réussite financière pour un chrétien, c'est 20% de connaissances et 80% d'éducation. D'accord ? Une éducation financière. En effet, il faut une éducation financière. Donc la base de la réussite financière pour moi, c'est ça. Les connaissances ne servent à rien. Elles pourraient même être contre-productives si elles sont servies par un mauvais état d'esprit. D'accord ? Des connaissances pour de la connaissance purement technique, ça ne sert à rien si l'état d'esprit derrière n'est pas le bon. Ça, où est-ce qu'on l'apprend ? Bah, dans notre éducation. Il faut qu'on soit éduqué. D'accord ? D'où la nécessité de se poser des questions sur l'éducation financière donnée à nos enfants et l'éducation financière, en l'occurrence, que je veux parler aujourd'hui, que vous avez reçue, vous, aujourd'hui adulte. L'école, est-ce que l'école répond à ces questions-là? Non. Moi qui suis maman de deux enfants, je peux vous dire qu'à l'école, on ne parle pas de finances. Absolument pas, jamais. Mon fils est en quatrième, bon, moi je suis allée jusqu'au bac. Jusqu'au bac, je n'ai jamais entendu parler de finances. Il aurait fallu pour ça que je fasse des écoles, des grandes écoles, une université spécialisée, mais jusqu'au bac, au moins, on n'entend pas parler de finances. Le seul moment où les enfants en entendent parler, c'est vraiment dans les premières années de primaire, où on se sert de l'argent pour leur inculquer les premières bases des mathématiques. Donc, à l'école, on va leur donner des petites pièces en carton, des petits billets, et on va leur apprendre donc à faire des additions, des soustractions, comment gérer un panier avec maman quand elle va faire des courses, voilà. Donc, ce sont des fausses pièces, des faux billets. Et puis comme ce sont des enfants qui sont petits, on va leur apprendre des petites notions mathématiques, donc ça va être des petits montants, d'accord? Donc les pièces, bah, ça va être les pièces classiques, hein, les petits centimes, et ça va jusqu'à 2 euros. Et puis alors pour les billets, bah, on va pas trop haut parce que ce sont des enfants, donc ils vont voir de faux billets qui sont même pas à taille réelle, ils vont voir des faux billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, et ça s'arrête là. Au mieux, dans quelques classes, on va leur montrer des billets de 100 euros. Mais moi, je ne me souviens pas que mes enfants en aient vu. C'était plutôt jusqu'à 50 euros. Donc, en fait, les enfants vont avoir, voilà, la seule éducation financière qu'ils vont avoir, c'est ça. Des petites pièces en carton, des petits billets qui ne sont même pas à taille réelle. Et puis, dans la tête d'un enfant surtout, bah voilà, les billets, c'est 50 euros maximum. Ils n'ont aucune idée qui est en réalité à leur disposition des billets de 100 euros, 200, voire 500. La plupart des gamins n'ont jamais vu de billets de 500 euros en vrai. Oui, et même les adultes d'ailleurs. Donc voilà, tout ça, ben, c'est le résumé de l'éducation financière que vont recevoir nos enfants. Donc il y a fort à parier que ça résume aussi très bien l'éducation financière que vous-même avez eue. D'accord ? À l'école, c'est tout ce que le système scolaire vous offre. Donc si on en veut plus, où est-ce que ça se passe ? Ben, ça devrait se passer à la maison. Ça devrait se passer à la maison. Mais est-ce qu'à la maison, on parle d'argent? Bon, chez moi, on n'a jamais parlé d'argent. Hein. Chez moi, on ne parlait pas d'argent. Ce ne sont pas des sujets pour les enfants, de toute façon. Donc, si moi, j'ai été élevée comme ça, il y a fort à parier que vous avez tous été élevés comme ça. On parle pas d'argent dans les maisons. En France, on parle pas d'argent de manière générale. Mais certainement pas avec des enfants. Ce sont pas des sujets pour les enfants. Les seuls moyens d'entendre parler d'argent pour les enfants, c'est peut-être éventuellement, de regarder la réaction de leurs parents face à l'argent. Donc voilà, les enfants, qu'est-ce qu'ils font pour apprendre ? Ils nous regardent, ils nous copient. Il y a un mimétisme qui se fait chez les enfants. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Ils vont scruter vos réactions quand vous recevez des factures. Ils vont scruter vos réactions à la fin du mois. Ils vont scruter vos réactions même quand vous avez un gain d'argent supplémentaire, quand c'est la fête à la maison parce qu'il y a un petit peu plus d'argent qui est rentré. Ils vont regarder comment vous réagissez à toutes ces choses. Et c'est comme ça qu'ils se forgent leur propre éducation financière. Quand ils vous voient stresser à la fin du mois parce que vous ne savez pas comment vous allez payer les factures, c'est une des manières dont l'enfant s'éduque lui-même concernant les finances. Donc tout ce que vous faites, toutes vos réactions sont épiées. Un enfant, il regarde tout ce que fait ses parents. Sachez que le domaine financier, c'est la même chose. L'enfant vous regarde. L'école ne leur apprend rien. Il y a de fortes chances que vous ne leur appreniez pas grand-chose parce qu'on ne parle pas d'argent en France. Donc qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Il faut qu'ils s'instruisent sur le sujet. Donc ils vous regardent, ils vous épient. J'imagine que ça se passe comme ça dans toutes les maisons. Si vous revenez un petit peu en arrière, rappelez-vous votre enfance. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'argent à la maison ? Pas grand-chose. Est-ce que vos parents vous ont parlé d'argent ? Très peu. Ou alors pour vous dire, ça, on ne peut pas se le permettre. Donc ça, je ne peux pas acheter. L'argent, quand on en parle en France, dans la plupart des foyers, c'est associé au manque. Malheureusement. Donc ça, voilà. Donc on vient de voir que la première source d'apprentissage, c'est l'école et elle fait défaut. La deuxième source d'apprentissage, c'est la maison. Et la plupart du temps, ça fait défaut. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comment fait l'enfant pour se construire une intelligence financière ? Comment vous avez fait, vous ? Vous ne vous êtes pas construit une intelligence financière, tout simplement ? C'est aussi bête que ça ? Malheureusement, on ne se bâtit pas d'intelligence financière. On ne se nourrit pas de ce genre de choses. Autant les gens ne vont avoir aucun problème pour s'éduquer sur des sujets qui vont leur servir toute leur vie. Donc, pour les femmes, elles vont acheter des bouquins de cuisine, elles vont apprendre à cuisiner. Les hommes vont regarder des vidéos pour apprendre à démonter un moteur, changer une ampoule, réparer des choses. Vous voyez, vous vous éduquez très très facilement. En plus, maintenant, l'éducation, on, avec les moyens internet, etc., on a accès à l'éducation super facilement. Donc, vous avez vu comme facilement, vous allez vers internet, vers les livres, vers les gens qui savent pour vous éduquer, pour combler un manque dans votre éducation. Pourquoi vous ne faites pas en matière d'argent ? On ne le fait pas. On ne le fait pas. Il y a quand même quelque chose de bizarre avec ça. C'est un gros mot quasiment, ouais. Exactement. L'argent en France, c'est quasiment un gros mot. C'est tabou. Maintenant, revenons un peu à votre enfance, en tout cas à la mienne. Qu'est-ce que peut vous apprendre un parent qui est pauvre ou de classe moyenne sur l'argent ? Qu'est-ce qu'il peut vous apprendre ? Attention, être pauvre ou de classe moyenne, ce n'est pas du tout ni un gros mot, ni une insulte, ni quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Mais je dis que tout ce que je veux vous démontrer, c'est que la plupart des gens viennent de ce genre de milieu, la classe moyenne. Donc qu'est-ce qu'un parent de classe moyenne peut enseigner à ses enfants au niveau de l'argent ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, ou alors des principes de classe moyenne. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas faire mieux que ça. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est important, et ça, dans toutes les familles, je pense que ça s'est fait. On apprend au moins des principes de vie à nos enfants. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent ni d'être millionnaire pour apprendre des principes de vie. Par exemple, on entend souvent dans les familles, moi en tout cas, c'est ce que j'ai appris dans la mienne, tu n'as rien sans rien, paye toujours tes dettes, respecte ta parole donnée, travaille à l'école si tu veux un bon job, et un bon job, ça veut dire un bon salaire. Donc travaille à l'école, travaille dur, obtient un diplôme. Voilà, ça ce sont des principes de vie qui n'est pas nécessaire, il faut pas être riche pour les enseigner. Et en général, c'est ce qu'on apprend à vos enfants. Mais sur la finance, c'est à peu près tout ce qu'on vous enseigne. Donc oui, tout ça c'est très bien. Il faut le dire à des enfants parce que c'est utile. Respecter la parole donnée, travailler dur, se donner du mal, ce sont des bonnes valeurs et il faut absolument les leur enseigner. Donc qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant, avec un peu de chance, il va travailler dur, il va obtenir un diplôme, il va éventuellement faire une grande école, et puis comme ça, il aura un bon job, où il gagnera bien sa vie, et puis il continuera de nouveau à travailler dur jusqu'à ce qu'il ait des enfants et il apprendra à ses enfants, travaille dur à l'école, obtient un bon diplôme et voilà. Et on ne sort pas de ce cercle-là, on n'en sort pas. L'éducation financière, quand elle est enfermée dans ce genre de principe, elle n'évolue pas. Qu'en est-il de la mentalité de quelqu'un qui a quand même réussi ? Parce qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie. Hein. Je veux dire, on peut considérer qu'un médecin, un chirurgien, un avocat, un directeur financier, on peut considérer que ce genre de personne a réussi dans la vie. En général, ils ont de bonnes positions, ils ont des bons salaires, ils ont une jolie maison, ils vivent bien. Donc ça, vous êtes tous d'accord avec moi, on peut dire que ce sont des gens qui ont réussi dans la vie. D'accord ? Mais à quoi ça sert s'ils ont conservé une mentalité de pauvre ? Ça ne sert à rien. D'ailleurs, regardez autour de vous, lisez un petit peu les journaux. Combien on voit de banquiers qui se retrouvent en prison ou endettés jusqu'au cou ? Voilà, ils sont banquiers, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent à leur disposition, mais ils ne savent pas le gérer. Ils ne savent pas le gérer et ils passent leur vie à galérer avec l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez des gros salaires que vous n'avez pas de dettes. Ce n'est pas parce que vous avez des gros salaires que vous savez gérer votre argent. Ça n'a rien à voir. Avoir beaucoup d'argent, c'est peut-être effectivement le résultat de votre travail acharné, d'avoir travaillé dur pendant des années, des bons diplômes, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est le résultat, vous gagnez un salaire confortable. Mais savoir gérer l'argent, si personne ne vous l'apprend, ben, vous n'êtes pas plus riche qu'un ouvrier qui travaille à la chaîne. Pas plus riche, ça ne durera pas aussi longtemps. En tout cas, vous aurez les mêmes problèmes. L'ouvrier, il aura du mal à la fin du mois pour gérer ses finances, mais le banquier peut avoir les mêmes problèmes que l'ouvrier. Les mêmes problèmes. Si on ne lui apprend pas, s'il ne s'éduque pas au niveau financier, il vivra les mêmes problèmes qu'un ouvrier. D'ailleurs, Proverbe 17 nous dit, et j'ai trouvé ça hyper violent, « À quoi bon mettre de l'argent dans les mains d'un sot pour acquérir la sagesse ?» Mais son intelligence est nulle. Point d'exclamation. Je vous assure, c'est écrit dans la Bible. C'est une des versions. Je vous assure, je ne l'ai pas inventée. 17-16. La seule chose que je n'ai pas notée sur mes notes, c'est la version, mais je peux vous la donner. Son intelligence est nulle. Point d'exclamation. C'est quand même hyper violent. On parle de qui ? On parle de banquiers ? On parle de directeurs financiers, de gens qui sont censés, aux yeux de la société, avoir réussi dans la vie. Qu'est-ce que dit la parole de ces gens-là ? À quoi bon leur mettre de l'argent dans les mains ? Ils sont sots. Leur intelligence est nulle. Ça fait réfléchir. Moi, ça m'a fait réfléchir. Hein. Dieu a créé la richesse. Toutes les richesses. Absolument toutes les richesses. C'est une certitude, vous le savez. On peut le voir d'ailleurs dans AG 2.8, le Seigneur dit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc on sait tous que toutes ces choses, toutes ces richesses ont été créées par Dieu. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le diable, lui, il crée le sentiment de peur. Un sentiment de peur par rapport à l'argent. Et alors c'est super facile. Comme on n'a aucune idée de notre identité en Christ au niveau de l'argent, comme on ne s'éduque pas au niveau de l'argent, on ne connaît pas notre pouvoir face à l'argent, mais c'est du beurre pour lui. C'est hyper facile. Il crée un sentiment de peur, ce qui génère un mauvais rapport avec l'argent chez la plupart des gens, au moins tous ceux qui ne sont pas instruits sur le sujet. Au lieu d'utiliser l'argent comme un outil, un simple outil, parce que c'est ça, l'argent n'est qu'un outil mis à disposition par Dieu pour nous servir et pour servir son plan. Ça n'est qu'un outil. Alors au lieu d'utiliser, quand on a peur, au lieu d'utiliser l'argent comme un simple outil, bah, on ne voit que l'outil. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si je perds cet outil ? Qu'est-ce qui va se passer si mon outil n'est pas assez gros ? Si j'en ai plus ? Si soudain on me le prend ? Si soudain on me le vole ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Au lieu de considérer comme un simple outil l'argent, les gens considèrent cet outil-là comme une denrée rare. Or, l'argent, les richesses ne sont pas une denrée rare. La terre est remplie des richesses de Dieu. Ça n'est pas une denrée rare. Ça ne peut pas manquer. Ah oui, ça peut vous manquer à vous. Mais en tout cas, sur la terre, les richesses ne manqueront jamais. Ça n'est pas possible. Donc, la peur de cet outil, ben, c'est la peur de ne pas avoir assez d'argent. On devient alors comment ? Esclave. Esclave de la peur, esclave de l'argent, qui est alors associé à quelque chose de mal. Quand vous avez peur de quelque chose, ça comporte un côté... c'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose de malsain. Ça devient presque quelque chose de malsain. Donc toute sa vie, on va avoir peur de l'argent, peur de le perdre. Vous voyez un peu sous quel esclavage, sous quel joug on se met si on ne s'instruit pas sur le sujet. Maintenant, faisons un petit exercice. Imaginez que vous avez été élevé par une famille de milliardaires. Imaginez-vous enfant dans une famille de milliardaires. Imaginez vos parents, mais pas du tout avec la même situation, pas du tout dans la même maison. Est-ce que vous pensez que votre rapport à l'argent aurait pu être différent ? Moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai posé la question à Pierre hier. Ça a été un peu un défi pour lui de répondre. Évidemment que notre rapport à l'argent aurait été complètement différent. Moi, tout ce que j'ai connu de l'argent, c'est la peur d'en manquer. C'est, pour moi, l'argent, c'était synonyme de travail acharné, de fais gaffe à l'école, il faut que tu aies du bonnes notes, il faut que tu t'en sortes dans la vie, il faut que tu aies un bon boulot. Voilà. Et puis, à la fin du mois, on n'en a plus. Et puis, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas t'acheter ça parce qu'on manquait d'argent. Pour moi, l'argent, dans mon enfance, c'était associé au manque. Mais dans une famille de millionnaires, vous n'avez pas ce genre de rapport avec l'argent. Vous en avez d'autres, très certainement. Mais en tout cas, l'argent n'est pas associé à quelque chose qu'on a peur de perdre. L'argent n'est pas associé à quelque chose dont on manque. Votre rapport à l'argent aurait été très certainement moins lourd, moins dense, moins stressant, très certainement. Essayez d'imaginer ça. Personnellement, on n'a pas été élevé par des millionnaires. Et même si on n'a jamais manqué de rien, hein, notre table n'a jamais manqué de quoi que ce soit pour manger, bon, effectivement, ma mère a dû être parfois assez créative pour nous faire à manger à tous les quatre, mais on n'a jamais manqué de rien. Je ne suis pas en train de vous la jouer Cosette dans Les Misérables. Hein, tout va bien. On s'en est très bien sortis. Mes parents ont même eu la joie de s'acheter une maison. Par contre, ce que je me souviens très très bien, c'est que je me souviens de l'emménagement dans cette maison. J'avais 6 ans. Et je me souviens aussi des années qui ont suivi. Alors, on était super contents, ma sœur s'en rappellera peut-être pas parce qu'elle était beaucoup plus petite, mais moi, j'avais 6 ans, je me rappelle très bien. On était super contents de rentrer dans cette maison, mais qu'est-ce qu'on en a bavé dans les années suivantes ? Ça a été un vrai sacrifice financier pour mes parents. Un gros, gros sacrifice. C'est-à-dire qu'on a tout sacrifié à cette maison. Alors, ouais, on était chez nous, mes parents étaient propriétaires, c'était super, c'était un vieux rêve d'enfant pour eux, c'était le but ultime à accomplir dans leur vie, s'acheter une maison, c'était énorme. Mais qu'est-ce qu'on en a bavé par la suite ? Par la suite, j'ai vu ma mère devoir être créative pour nous faire à manger. J'ai vu mes parents, et nous d'ailleurs, ne plus jamais partir en vacances pendant des années. Si on n'était pas invité par nos oncles et tantes ou nos grands-parents, on ne partait pas en vacances. Voilà, l'achat de la maison a été vraiment un gros sacrifice. Pour moi, l'éducation financière, c'était ça. C'était voilà, tu travailles dur toute ta vie. Si tu as de la chance, tu peux t'acheter une maison. Et à partir du moment où tu as ta maison, voilà. Tu sacrifies tout le reste. Tu as ta maison, mais tu sacrifies tout le reste. Pour moi, c'était ça. J'ai grandi avec cette notion-là d'argent. Alors évidemment, à la maison, on ne parlait pas d'argent du tout. Hein, mes parents n'en parlaient pas. De toute façon, c'était un sujet tabou. Et puis, alors si, par contre, on en parlait quand on réclamait un nouveau cartable à la rentrée ou de nouvelles choses. Non, les cartables n'étaient pas neufs à toutes les rentrées. Les vêtements non plus. Et voilà, c'est le seul moment où on parlait d'argent parce que ma mère nous disait, non, ça, on ne peut pas l'acheter. Par contre, tout ce qui concernait la gestion des finances, tout ça, c'était chuchoté le soir quand on était couché. Je me rappelle de mes parents, ma mère qui sortait les factures le soir quand on était couché. C'est fou, hein, de voir cacher à ses enfants une difficulté financière. Mais c'est comme ça qu'on a été élevés, et je sais que c'est le cas pour la plupart des gens. En même temps, je ne peux pas leur en vouloir, ils n'ont reçu aucune éducation financière. Donc ils ne m'ont retransmis que ce qu'eux-mêmes ont reçu. Donc moi, en grandissant, je me suis toujours arrangée pour avoir du travail. Je me suis toujours dit, voilà, il va falloir faire gaffe. Donc je me suis toujours arrangée pour avoir du travail, pour gagner ma vie. Et voilà. Mais je gardais en mémoire ce que me disait ma mère. Elle me disait, attention, fais des économies quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, c'est presque sûr, un jour, tu en manqueras. Mais moi, j'ai grandi comme ça. Donc, j'ai fait en sorte de toujours avoir un travail, de toujours avoir un petit peu d'argent. Mais bon, voilà, pour moi, l'argent, c'était associé à la peur. Alors, il y a, les gens ont différentes manières de gérer la peur. Donc, moi, ma façon de gérer la peur, c'était de me dire, je suis jeune, donc quand on est jeune, on ne pense pas à l'avenir, aux économies, à l'épargne, tout ça, pour nous, c'est trop loin. Donc moi, je me disais, bon, voilà. De toute façon, si j'écoute ma mère, fatalement, un jour, je vais manquer d'argent, donc autant claquer celui que j'ai maintenant de manière la plus agréable possible, et puis on verra bien, advienne que pourra le mois prochain. Et donc voilà, donc régulièrement, je voyais arriver des factures, et la peur de ces factures... Ben, moi, je la traitais comme ça. Je me disais, bon, ce qui me reste, je vais sortir. Donc à l'époque, je m'achetais des tailleurs et des chaussures à talons. J'adorais les tailleurs et les chaussures à talons. J'en avais plein mon placard. Sauf que mon compte en banque, c'était une cata. Il était vide. Et plus j'essayais de combler cette peur par des beaux tailleurs et des chaussures à talons, plus mon compte bancaire s'aggravait, quoi. C'était une vraie catastrophe. Donc moi, ça, c'était ma façon à moi de gérer ma peur. Juste, je ne regardais pas, quoi. Je ne regardais pas les factures. Et le peu que j'avais, je le dépensais de manière agréable. Ah ben oui, chacun gère les choses, voilà. Et moi, j'ai été vraiment délivrée de ça le jour où j'ai reçu le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu de nombreux défis dans ma vie chrétienne, mais il y a quelque chose que j'ai immédiatement compris, c'est le principe de la dîme. Je me rappelle comme si c'était hier. Alors moi, le semer récolté et mettez-moi à l'épreuve, chez moi, ça a été tout de suite... intégré. Et donc tout de suite j'ai versé ma dîme, tout de suite j'ai mis le Seigneur à l'épreuve et tout de suite j'ai vu les résultats. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et je me suis dit, bon alors là, vraiment je n'ai plus à avoir peur de l'argent. Et par contre je soupçonnais que quelque chose était différent et qu'il me manquait quelque chose dans mon éducation. Donc là j'ai commencé à vraiment lire des livres sur la dîme et à vraiment m'éduquer au niveau de l'argent. Il y a plein de livres, en fait, on ne le sait pas, mais il y a plein de livres qui parlent de l'argent. Des livres chrétiens, des livres non chrétiens, mais il y a plein de livres qui parlent du sujet et qui peuvent vous aider à vous éduquer. Donc moi, je me suis débarrassée de ma peur, comme ça. Par contre, je sais que chez d'autres, c'est l'inverse. Quelqu'un qui a peur de manquer d'argent, ben lui, il va avoir la réaction inverse. C'est-à-dire qu'il va thésauriser, garder l'argent, il va remplir des comptes bancaires d'épargne, voire ça peut même aller jusqu'à ne pas acheter des choses nécessaires pour ne pas dépenser. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on peut manquer de nourriture. Alors, c'est bien de ne pas manquer d'argent, mais si vous manquez de nourriture, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi d'avoir de l'argent sur votre compte bancaire si vous ne pouvez pas partir en vacances ? Ça sert à quoi si vous ne pouvez pas gâter vos enfants ? Ça sert à quoi si vous ne pouvez pas prendre soin de votre père ou de votre mère malade ? Ça sert à quoi si on ne peut pas aider les autres ? Ça ne sert à rien. Donc voilà, donc il y a des gens qui dépensent inconsidérément pour conjurer le sort. Et puis il y en a d'autres qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent l'argent, qui amassent les biens, qui amassent tout. Pour eux, c'est peu importe ce qu'ils amassent, l'important c'est d'amasser pour combler cette peur de manquer. Alors voilà, on a fait un peu le tour de ce que je voulais aborder. Donc, si vous pensez souffrir d'un esprit de manque, c'est à ça que je voulais en venir. Il y a plusieurs symptômes qui sont reconnaissables. Il y en a 4 qu'on va regarder rapidement. La peur de ne pas avoir assez. Donc ce type de peur, donc ça provoque soit ce qu'on vient de voir, une propension à accumuler exagérément, ça peut, comme moi... entraîner quelqu'un à dépenser et puis à surtout pas regarder les factures ni le compte bancaire, mais à dépenser bêtement. Ces gens-là, pour les rassurer, il faut leur dire que eux peuvent manquer de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais la terre n'en manquera jamais. L'abondance est sur la terre. Toutes les choses que Dieu a faites, il les a faites en abondance. Proverbe 3:10 nous dit « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves gorgeront de mou. » Psaume 23 « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ça, c'est une des façons, c'est une des choses dont il faut se nourrir dans ce cas-là. Le symptôme numéro 2, c'est croire que l'on ne peut pas contrôler son argent. Alors, il y a des gens, ils vivent comme ça, les factures arrivent, ils les payent, un peu stressés de les payer, mais ils les payent quand même, et paf, ils survivent en apnée jusqu'au prochain salaire. Souvent, ce genre de personnes-là, si on commence à les interroger, on s'aperçoit que, en creusant un peu, ils font pas de budget. En réalité, ils gèrent pas leur argent. D'où les problèmes. C'est la vie qui les mène par le bout du nez. C'est les factures. Ils évoluent de facture en facture. Même pas de salaire en salaire, parce que les salaires ne suffisent pas. C'est de facture en facture par le bout du nez, comme ça. Ils ne prévoient rien. Ils n'organisent rien. La solution pour ces gens-là, absolument faire un budget mensuel. C'est essentiel. Essentiel. Alors, j'ai vécu ça. On a vécu ça, d'ailleurs, récemment. À la maison, on a eu besoin de revoir notre façon de dépenser. Et donc, on en est arrivé à un point où, bon, nous, on a toujours eu un budget, hein, donc, mais bon, en ce moment, le budget était un peu, voilà, on dépassait allègrement. Donc, on a trouvé une solution. Non seulement on a un budget, on essaie de s'y tenir, mais en plus, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on retire de la banque ce qui nous reste pour le mois. Et alors ça, je peux vous assurer que ça fait 3 mois qu'on le fait, c'est magique. C'est juste magique. Je veux dire, quand vous partez avec de l'argent dans votre poche pour faire les courses ou quoi que ce soit, quand vous sortez le porte-monnaie, à tout de suite, les achats prennent une autre couleur. Ah bah oui, parce que moi je suis du genre à ne jamais avoir de liquide sur moi. Par contre, je suis une dégaineuse de cartes bleues hors pair. Eh bien, je vous assure que ça, ne plus sortir la carte bleue, mais compter ce qu'on a dans son portefeuille avant de faire les courses, je vous assure, ça change la vie. Du coup, les achats ne sont plus les mêmes, les priorités ne sont plus les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on se prive ou qu'on renonce. Ça veut dire que peut-être on remet à plus tard ou qu'on fait un choix sur le moment. Donc ça, c'est très, très, très utile. Nous, on a eu besoin de ça, je dois dire que c'est vraiment redoutable. C'est vraiment efficace. Donc, pour répondre à la question... Est-ce qu'on peut contrôler son argent? Oui, absolument. On peut contrôler son argent. Il y a plein d'outils pour nous aider à le faire, d'ailleurs. Et si vous voulez voir, il y a un exemple absolument magnifique de gestion de budget dans la Bible. Je l'ai relu cette semaine. C'est tout le chapitre 5 de Rois, quand il est question de l'organisation de un roi. Quand il est question de l'organisation de la construction du temple. C'est juste énorme. Tout était calculé au centime près. Tout. Alors, tout ce qui était matériel, tout ce qui était argent, mais tout était géré aussi au niveau des employés. Il y a des milliers d'hommes qui ont travaillé sur ce temple. Donc, tout était géré. Absolument tout était géré. Donc, si tout était géré à cette grande échelle-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas gérer, nous, notre propre budget? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il suffit juste de le vouloir. Et je vous assure que quand vous commencez à gérer les choses, vous reprenez la main sur le problème et la peur disparaît. Quasi instantanément. Une autre erreur, un autre symptôme, croire que nos revenus sont limités. Croire que toute la vie, tout entière, ne dépend que de nos revenus. C'est une erreur monumentale. Il y a des gens qui pensent comme ça. Toute leur vie est pensée, organisée, planifiée en fonction de leurs revenus. Ben oui, mais leurs revenus, ben, ils ont un début et une fin. Ce qui fait que ben, toute leur vie, elle est planifiée entre ces deux piquets-là. Donc ça ne va pas bien loin. Ça ne va pas bien haut non plus. C'est une erreur. Quand le salaire arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe? On cesse de vivre, on cesse de rêver, on cesse de faire des projets, la vie s'arrête. Comment on gère ça? C'est une grosse erreur. Dans ce cas-là, il n'y a plus de place pour les rêves, plus de place pour les grands projets. Et surtout, à force de vivre comme ça, eh ben, ils s'assurent de bien verrouiller les deux piquets et de vivre comme ça pendant de très longues années. Donc il faut vite sortir de là. Vite sortir de là comment? Ben d'abord, tout simplement en se disant, en faisant le point froidement, est-ce que mes revenus sont insuffisants? Ben dans ces cas-là, pourquoi ne pas changer de travail? Pourquoi pendant un temps ne pas prendre un deuxième travail, faire quelques heures supplémentaires? Pourquoi ne pas transformer une épargne en quelque chose, une épargne qui rapporte peu, en quelque chose qui rapporterait un petit peu plus? Surtout, pourquoi ne pas prier pour avoir de nouvelles idées? Le Seigneur peut vous montrer des moyens de gagner de l'argent. Plein. Mon peuple périt faute de connaissances, dit Osée. Mon peuple périt faute de connaissances. Non, nos revenus ne sont pas limités à notre salaire. Nos revenus sont à la mesure des provisions que le Père a prévues pour nous, pas au ciel, sur terre. Il a créé des richesses. Elles sont là, elles sont juste à notre portée. Juste à notre portée. Il suffit juste d'en prendre conscience et de les appeler. Ésaïe nous dit, 54:2 nous dit, élargis l'espace de ta tente. Ne vous laissez pas enfermer par les limites de votre salaire ou de vos revenus. Élargissez l'espace de votre tente. Élargir l'espace de sa tente, pour ceux qui ont fait du camping, vous savez ce que c'est? C'est déterrer un poteau, tirer une corde et le replanter plus loin. C'est gagner de l'espace, occuper plus d'espace. Élargissez vos pensées. Élargissez votre manière de voir les choses. Ne vous laissez plus enfermer par ces deux piquets-là. Osez rêver plus grand. Le symptôme numéro 4, c'est le manque d'estime de soi. Celui-là, je crois que c'est un des pires. Vraiment un des pires. En tant que chrétien, on est né de nouveau. Et à cette nouvelle naissance, nos pensées ont été renouvelées. C'est facile à dire, hein, tout le monde le sait, vous avez tous compris. On a tout... Facile, hein, facile. Sauf qu'on oublie trop souvent que nos pensées ont été renouvelées aussi en matière d'argent. Aussi en matière d'argent. Nos pensées ont été renouvelées dans tous les domaines. Nous avons trop tendance à nous évaluer selon de mauvais critères. C'est fini cette époque-là. On a tous tendance à se comparer aux voisins. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr de notre identité en Christ. Alors si votre voisin il a une plus grosse voiture que vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça ne veut pas dire que Dieu l'aime plus. S'il a une plus grande maison que vous, ça ne veut pas dire qu'il est plus béni que vous. Vous n'êtes pas moins béni parce que vous avez une plus petite maison. Vous n'êtes pas moins aimé de Dieu parce que vous avez une plus petite voiture. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a dans vos garages, ce qu'il y a dans vos maisons, ce qu'il y a dans vos placards, ça n'est pas vous en tant que personne et ça ne reflète certainement pas la quantité d'amour que Dieu a pour vous. C'est pas du, on n'y est pas du tout là. L'estime de soi, elle est pas calculée à cet endroit-là. Dieu ne nous aime pas plus ou moins que le voisin. Il ne vous bénit pas plus ou moins que le voisin. En fait, lui, il aimerait vous bénir de la même façon, tous les deux. Sauf qu'à un moment donné, il y a certainement des choses qu'il ne peut pas faire pour nous, à un moment précis. Donc non, non. Je ne suis pas indigne d'être béni. Non, je ne suis pas indigne d'être riche. Parce que c'est ça aussi. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être riches. Qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation, ils ne sont pas nés dans la bonne famille. Voilà, moi je viens d'une petite famille du Maine-et-Loire. Je ne suis pas digne d'être riche. Bah, non, bien sûr que si. D'ailleurs, moi je ne sais pas pourquoi je me suis toujours vue riche. Avec Sonia, à un moment donné, quand on cherchait des appartements, tu te souviens, pasteur, on ne cherchait pas des appartements, mesdames. Nous, on cherchait des châteaux, quoi. Et on a visité des châteaux. Donc, pour vous dire que nous, quand je vous dis que j'ai été renouvelée dans mes pensées quand je suis née de nouveau, mais il y a peut-être quelques étapes que j'ai brûlées dans le processus, mais moi, voilà, on allait visiter des châteaux avec Sonia. C'était un truc assez hallucinant. Donc, ouais, il y a l'estime de soi. Ce qu'on pense de soi-même. Relisez des livres sur votre identité en Christ. Parce que votre bonne santé financière fait partie de votre nouvelle identité en Christ. Ne laissez pas le diable vous faire croire le contraire. Donc voilà, donc je voudrais juste revenir sur un point. Moi-même, en tant que maman, j'encourage mes enfants, je menace même mes enfants, à avoir des bonnes notes à l'école, à faire de grandes études, et je veux qu'ils réussissent dans la vie. Je veux vraiment qu'ils réussissent dans la vie. Mais en même temps que je les pousse pour ce genre de choses et que je ne laisse rien passer au niveau de l'école, je leur offre aussi une autre vision du truc. C'est-à-dire que je remplis ma part dans l'éducation financière qui manque au système scolaire. Je remplis ma part. Donc ils sont éduqués. On parle beaucoup d'argent à la maison. On parle beaucoup d'épargne. D'ailleurs, ils ont appris très récemment à faire trois types d'épargne, ce dont je vous parlerai quand on fera les choses sur les enfants. Donc on parle beaucoup d'argent, je fais ma part, je veux qu'ils croient, je veux qu'ils sachent qu'ils ont le droit de penser grand, de prétendre à avoir grand, beaucoup, et qu'avec Dieu tout est possible. Ça c'est essentiel. Donc oui pour l'école, mais oui aussi à une éducation complémentaire, conforme à la parole, c'est une obligation. Ne pas éduquer les enfants sur les finances, c'est ne pas s'éduquer soi-même sur les finances. Et c'est vous donner une assurance, celle de ne pas aller plus haut que ce que sont allés vos parents. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, c'est nécessaire. Donc, si vous souffrez d'un de ces quatre symptômes, ben, écoutez, réfléchissez-y déjà. Essayez de comprendre d'où ça vient, si ça vient de votre enfance, si ça vient juste d'un manque d'éducation. Parce que dans ces cas-là, un manque d'éducation, ça se comble très facilement en priant, en lisant des livres, en cherchant des versets, en les parlant tous les jours. Moi, j'ai eu cette période-là où j'ai parlé des versets comme ça pour les finances tous les jours. Ça se règle très facilement, ce genre de choses. Si ça n'est pas une question d'éducation, mais que vous souffrez d'un de ces symptômes-là, ben, je vous ai donné les clés. Voilà. Il y a juste une chose que je voudrais ajouter pour finir, c'est que j'ai trop hâte de lire le livre sur les finances qui va sortir. J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai trop hâte. Je sais que ça reprend beaucoup de choses, alors évidemment beaucoup plus développées. J'ai trop hâte. Et je voudrais aussi vous encourager à parler d'argent avec vos enfants. Pas à sortir les factures quand les petits sont couchés le soir. Les gamins, autant ils ont besoin de voir que, oh bah tiens, il y a de l'argent supplémentaire, on va faire la fête, on part en vacances. Mais ils ont aussi besoin d'être confrontés aux factures. Donc ne faites rien en cachette concernant l'argent. Nous, on fait tout, ils savent tout des comptes. Et d'ailleurs, ils nous demandent, mais alors, combien on a sur les comptes ? Voilà. Ils savent tout. Et la prochaine étape, ça va être de leur donner un accès à leur propre compte sur Internet. Je veux qu'ils sachent ça. Je veux, comme disait le pasteur, qu'ils soient armés. Pas qu'ils soient désarmés comme nous. Parce qu'aujourd'hui, les galères que nous vivons, eh ben, c'est pas notre faute en réalité. Hein. C'est juste qu'on n'a pas été éduqués sur le sujet. Voilà. J'espère que ça vous a béni. En tout cas, c'était...